Radio Kapi.
Et voici notre grande édition vespérale dominicale de nos informations avec Pascal Masirika.
À la une de l'actualité, commémoration ce dimanche de la Journée nationale de l'arbre. Dans la Tchopo, le gouverneur intérimaire Habibou Sakapela entend planter 1 million d'arbres à l'horizon 2023. Les diplômés des facultés de médecine non inscrites à l'ordre seront soumis la semaine prochaine à un test pour obtenir le numéro au tableau. L'épreuve est organisée en RDC par le Conseil national de médecins. Notre invitée, c'est la chef du HCR à Goma, au Nord Kivu. Madame Jackie Kigen affirme que les tueries et les autres actes de violence rendent difficile le travail de la protection de la population dans la région. Madame, Messieurs, bonsoir. C'est aujourd'hui la Journée nationale de l'arbre en RDC. En prélude à l'événement, le Parlement de jeunes de la Tchopo a sensibilisé hier samedi les élèves du complexe scolaire Sainte-Agathe sur l'importance de cette plante et sur la nécessité de protéger l'environnement. Le gouverneur intérimaire Habibou Sakapela entend planter 1 million d'arbres à l'horizon 2023. Un reportage à Kisangani de Jacques Mukonkole.
En sensibilisant les élèves sur l'importance de l'arbre, Fabrice Desbourg, président du Parlement des jeunes de la Tchopo, voudrait qu'ils répercutent ce message dans leurs communautés respectives.
Les enfants ont droit à l'information et nous allons résumer des courts messages pour que les enfants arrivent au moins à comprendre l'importance de l'environnement et ils deviendront également les acteurs de la protection de l'environnement.
Les élèves du complexe scolaire Sainte-Agathe ont intériorisé ces messages, comme on peut le constater.
L'arbre nous donne les fruits, il nous donne l'oxygène. Gêne que nous respirons.
On doit protéger l'arbre.
Le préfet de cet établissement scolaire, Lucien Boyoma, est convaincu que les informations sur la conservation de l'arbre seront bel et bien relayées par ses élèves.
Que la nature doit être conservée, surtout l'arbre, parce que la vie de l'homme est liée à l'arbre. Nos enfants ici sont capables de vulgariser ces messages.
À la fin de cette cérémonie, quelques arbres fruitiers ont été plantés dans l'enceinte de cette école. Par ailleurs, dans une cérémonie relative à la commémoration de cette journée à l'amphithéâtre de l'Université de Kisangani, le gouverneur de province a proclamé son ambition de planter 1 million d'arbres à l'horizon 2023. Ceci en conformité avec le vaste programme du chef de l'État qui vise à planter 1 milliard d'arbres à cette échéance. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Même son de cloche au Maniema où l'Observatoire congolais pour la gouvernance locale avec l'appui de la coopération technique allemande GIZ a lancé la mise en terre des arbres fruitiers et non fruitiers à croissance rapide en vue de maintenir la biodiversité des forêts. C'était au village de Lukongo dans le territoire de Kailo, à Kindu, Florence Kizalunga.
Selon Jean-Paul Assani, coordonnateur provincial des OCGL, plusieurs centaines d'arbres fruitiers et non fruitiers seront plantés dans ce secteur sur une étendue de 2 hectares pour lutter contre la déforestation.
Par exemple, les arbres à croissance rapide s'aideront la communauté pour le moment à lutter contre la déforestation, à maintenir l'équilibre climatique. Les arbres fruitiers vont aider la communauté pour la réduction de la pauvreté, aussi pour la vitamine C. Notre cité, à présent, nous reboisons 2 hectares, mais dans les jours à venir, nous sommes en train de préparer comment reboiser 10 hectares. Dans cette entité du secteur de Wassongola.
Une bonne surprise pour la communauté locale qui espère d'ores et déjà trouver de l'emploi. Frédéric Bouchikila est le chef de secteur.
Mes sentiments sont les meilleurs et de reconnaissance. Nous avons suggéré aux partenaires de nous donner encore les 3 hectares pour réaliser au total 5 hectares et cela nous donnera de l'emploi et de la richesse dans le secteur de Wassongola. Nous, la population du secteur de Wassongola, nous voyons comme une manne qui est tombée du ciel et nous garantissons à notre partenaire notre implication totale et ferme.
Un appel est lancé à tout le monde de planter les arbres pour faire face au risque de changement climatique. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Échanger samedi à Kinshasa entre experts sur les changements climatiques et la transition énergétique. La rencontre d'hier a été organisée par le réseau ecclésial de la forêt du bassin du Congo et le centre d'études pour l'action sociale. Le père Jacques Nzumbu, l'animateur principal de la rencontre, a suggéré l'implantation au pays d'une usine de production et de transformation des minerais. En accord avec les experts, il a été recommandé au Parlement congolais de voter une loi qui réglemente l'accès aux minerais et la production des batteries. Il est au micro de Richard Junior Kamunga.
La RDC peut effectivement devenir un pays solution en matière de changement climatique, à condition de bâtir elle-même, d'une manière indépendante et intégrée, une chaîne de batteries qui soit autonome. Une chaîne de batteries où on va transformer les produits miniers ici au Congo, qui se lance dans la production d'une politique des véhicules électriques et même des stockages d'énergie ici chez nous. Ma conférence voulait en fait réfléchir autrement par rapport à celle qui voulait que l'on fasse une batterie avec plusieurs pays africains et où le Congo en fait ne gagnerait presque rien, seulement la production première qu'on appelle des précurseurs. J'ai dit le Congo est capable de produire toute la chaîne ici chez lui. Avec une chaîne de valeur intégrée et décarbonée, donc sans carbone au Congo, nous pouvons donc construire beaucoup d'emploi chez nous. Nous pouvons aussi être indépendants nous-mêmes, contrôler la chaîne nous-mêmes et surtout, à la fin, devenir une puissance électrique comme État.
Dans un autre chapitre, le Conseil national de l'Ordre des médecins de la RDC rappelle à tous les détenteurs des diplômes des facultés de médecine non accrédités qu'il sera organisé la semaine prochaine des épreuves pour l'obtention du numéro au tableau. Quel est le chronogramme de ces épreuves? La réponse avec vous, Jean-Romain Lungembo.
Conformément à la décision du Conseil, désormais tous les impétrants seront soumis au test préalable à l'admission au tableau de l'Ordre des médecins. Selon Dr Ntsadi Fouéné, président national, la première session de ces épreuves sera tenue déjà du mardi 7 au samedi 11 décembre 2021 courant à Kinshasa, à Lubumbashi et à Goma. Pour les poules de Kinshasa notamment, ces épreuves se passeront aux cliniques universitaires de Kinshasa, au centre neuropsychopathologique de l'UNIKIN et à l'université protestante au Congo. Les candidats concernés à ces épreuves d'admission à l'ordre des médecins, nous dit Dr Ntsadi, sont priés de prendre connaissance du lieu d'affectation de leur jury ainsi que de l'horaire de chacun ce lundi 6 décembre 2021 sur le programme affiché au siège de l'ordre. Chaque candidat sera présenté devant le jury muni des blouses blanches.
Le programme national de lutte contre le sida dans le Grand Nord Kivu appelle les habitants de Butembo-Beni à lutter contre la propagation du VIH-Sida à travers le dépistage. Appel lancé hier samedi à Butembo en marge de la journée mondiale de lutte contre cette pandémie. Le coordonnateur du programme affirme que plus de 9000 personnes sont actuellement sous traitement dans la région. Cette activité a été organisée en collaboration avec les associations des personnes vivant avec le VIH-Sida. Docteur Mikez Maté s'est confié à Grâce Amzati.
Nous accompagnons 17 zones de santé, y compris Beni, Butembo, Katoa et les autres. Et dans ces 17 zones de santé, nous avons autour de 9007 cas de malades sous ARV. Il y a les médicaments qu'ils reçoivent, ils doivent avaler un comprimé par jour, tous les jours. Le message que nous voulons lancer, c'est que c'est le monde entier qui est en train de célébrer la lutte contre le VIH. Aujourd'hui, le VIH a été reconnu comme une épidémie des inégalités. Nous avons des inégalités entre les villes et les milieux ruraux. Nous avons des inégalités entre les riches et les pauvres, nous avons des inégalités sur plusieurs plans et ce sont ces inégalités qui facilitent la propagation de la maladie. Si nous arrivons à lutter efficacement contre les inégalités, à réduire les inégalités, il est possible que nous pouvons réduire la maladie. Nous avons des catégories ou des sous-populations que nous n'arrivons pas toujours à toucher, c'est la sous-population des professionnels de sexe. Nous avons ce que nous appelons aujourd'hui les populations clés. Nous avons la catégorie de la population carcérale que nous n'arrivons pas toujours à toucher. Nous avons la catégorie des homosexuels. Nous devons donner l'égalité des chances, l'égalité d'accès aux soins à tout le monde, à toute la population.
Revenons un instant sur la journée internationale de personnes vivant avec handicap. Au Tanganyika, Nestor Kongolo vit avec un handicap physique depuis 2019 à la suite d'un accident de train lors d'une mission de service. Le commandant de la police Kongolo parle d'un risque de métier. Pour en parler, retrouvons à Kalemi François-Xavier Mibé.
Nestor Kongolo est un agent de la police nationale congolaise vivant à Kongolo. Nestor est un premier sergent de la PNC, une carrière de policier qu'il a embrassée depuis 2002 à Kitanda dans les territoires des Kabalo. Arrivé à Kongolo 4 ans après, Nestor est aujourd'hui marié et père de 5 enfants. C'est au cours d'une mission de service que Nestor Kongolo est devenu une personne vivant avec un handicap physique à la suite d'un accident de train survenu le 29 septembre 2019 à Nyunzu. Nestor Kongolo escortait ces jours-là 25 prisonniers transférés de Kongolo à Kalemie par train. Je n'ai pas de ration. C'est maintenant mon épouse qui me nourrit et nourrit toute la famille. J'ai besoin des moyens de transport comme un tricycle pour atteindre même mon bureau. Le handicap physique dans lequel vit Nestor Kongolo est connu de sa hiérarchie. C'est le cas du colonel Jean-Marie Kayumba de la PNC Kongolo.
Le gouvernement, comme ils ne le prennent pas en charge, ils sont toujours avec nous là-bas. Nous avons même deux ou trois. Nous les avons mis à la disposition des Caritas pour avoir même des vélos, mais ça traîne. Ils sont malheureux, ils ne vivent que de leur salaire.
Le territoire des Kongolo compte plus de 15 policiers vivant les uns avec handicap et les autres blessés et devenus invalides dans l'exercice de leurs fonctions. Kalemi, on sait que Jabimbe Radio Kapi.
Autre nouvelle sur Radio Kapi, à Kisangani, les juristes engagés ont sensibilisé hier samedi des élèves du lycée Moufaoumé, de jeunes de la commune de Lubunga et des éléments de la police judiciaire. C'était autour des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme. La coordonnatrice du réseau des juristes engagés de Kisangani appelle les jeunes à briser le silence. Maître Rachel Kabamba s'est confiée à Jacques Mkongolé.
Voulons que les élèves arrivent à dénoncer et voulons aussi que les élèves comprennent comment prévenir les violences parce que nous voulons vivre dans un monde, dans une ville et une province sans violence. Maintenant, nous voulons que les élèves dénoncent, les élèves arrivent à se prévenir contre les violences.
Et ces élèves sont elles-mêmes complices de ce que vous déplorez aujourd'hui.
Voilà pourquoi on leur avait même montré cause de violence. Il y a eu aussi quelques conseils qu'on avait prodigués aux élèves par rapport à leur habillement et autres, par rapport à la consommation des alcools, par rapport à d'autres choses comme consommation de drogue et la nouvelle technologie, donc l'Internet et comment utiliser pour ne pas provoquer peut-être des cas de viol. Et tout beaucoup plus les garçons. Hein. Les filles, on a aussi prodigué quelques conseils sur leur habillement.
Et puis, 19 étudiants de l'université de Bounia sont exclus définitivement de cette université avant la fin de l'année académique. Cette décision fait suite à l'enquête qui a été menée par le comité de gestion depuis le mois de juillet dernier après la protestation des étudiants contre la majoration des frais académiques. Certains acteurs politiques de l'Ituri parlaient d'une décision impopulaire et contraire à l'instruction du ministre Mouindo Nzangi. À Bounia, Ezekiel Mouzalia.
D'après le recteur de l'UNIBU, ces étudiants avaient commis des actes de vandalisme au sein de cette institution, tout en proférant des menaces de mort à certains membres du comité de gestion. La protestation des frais académiques avait fait l'objet d'emprisonnement de certains d'entre eux, accusés notamment d'avoir incendié un véhicule de l'université, ainsi que d'avoir administré des coups aux surveillants pendant l'examen, affirme le professeur Simba Akokola. Il qualifie ces actes des étudiants de pire barbarie, qui ne devraient pas rester impunis dans une institution publique.
L'impunité qui a élu domicile fait que ces étudiants-là se sont constitués à un groupe pour mettre à mal le fonctionnement d'un établissement public. On a dit que non, on doit arrêter ça.
En réaction, le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social qualifie d'impopulaire cette décision et d'ajouter qu'il est de nature à vouloir remuer le couteau dans la plaie après le passage du ministre de l'ESU à Bounia qui aurait résolu ce problème. Fidel Mukunad.
Moi je pense que cette révocation aurait été prise au jour où les étudiants avaient posé l'acte. Mais l'autorité de tutelle était venue sur place. Donc c'est un comité qui a en lui le germe de conflit.
Signalons que les étudiants concernés ont promis de saisir la justice pour attaquer cette décision. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'UNITA, principal parti d'opposition en Angola, a réélu ce week-end son président Adalberto Costa Junior à l'issue d'un congrès de 3 jours tenu à Luanda. C'est un prélude aux élections générales prévues en août prochain. Annonce faite ce dimanche par l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA. Le 5 décembre 2013, le père de la démocratie sud-africaine, Nelson Mandela, mourait à l'âge de 95 ans. Sa mémoire vit notamment grâce à l'importante fondation Nelson Mandela. Cependant, sa famille n'a pas l'influence que l'on aurait pu attendre. Le gouvernement tchadien annonce qu'une loi d'amnistie sera votée bientôt pour permettre ainsi au mouvement politico-militaire de participer au dialogue national inclusif qui est prévu à la fin de l'année. Deux projets des lois seront soumis au Parlement provisoire. En attendant leur officialisation, une première liste a fuité. Déjà, le président français s'est envolé pour Paris à l'issue l'issue de sa rencontre avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, avec lequel il a appelé le premier ministre libanais Najib Mikati à trouver une issue heureuse à la brouille diplomatique entre Beyrouth et Riyad. Emmanuel Macron, chef de l'État français, dit avoir également abordé la question des droits de l'homme dans la région.
L'invité.
Notre invité, c'est la chef de la sous-délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Goma. Madame Miki Kigen affirme que l'accroissement des tueries et d'autres actes de violence rendent difficile actuellement le travail de la protection des habitants dans la région. Elle s'entretient avec Sifa Maguru.
Madame Jackie Kigan, bonjour.
Bonjour.
La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo se complique davantage avec pas mal d'incidents, les attaques contre les populations, les tueries, les déplacements des populations dans tous les sens, les violences qui s'intensifient. Quelle est votre analyse tout d'abord?
Je n'ai pas besoin de vous dire. Il y a 120 groupes armés dans à l'est du Congo. Il y a des opérations militaires qui ont été lancées bien avant, mais aussi pendant l'état de siège. Le gouvernement a pris des actions pour mettre fin aux problèmes liés à cette criminalité et aux groupes sans armes. Mais le problème toujours est que si les opérations militaires ne sont pas suivies que par des mesures de mise en place de gouvernance locale et de l'état de droit avec la police, avec la justice, avec les institutions qui protègent contre l'impunité, on va toujours avoir des difficultés. Donc on a des choses qui ont été lancées par la suite. Maintenant, nous devons commencer à travailler sur les racines du problème et sur les institutions et les services qui vont avoir un impact positif sur les populations.
Vous avez parlé des chiffres par rapport aux personnes qui ont été contraintes à se déplacer à cause de la violence.
Le gouvernement est en train de suivre les chiffres des personnes qui sont déplacées. Pour le moment, si je comprends bien, les autorités locales, juste dans le territoire de Beni, a identifié jusqu'à 800 000 personnes déplacées depuis le début de l'année. Je sais qu'on a aussi des chiffres important aussi dans les Touris, dans le Massissi, etc. Le taux de déplacement est énorme. Et ici, pour le moment, la difficulté, c'est qu'il y a tellement de criminalité, tellement de mouvements et d'affrontements militaires que les personnes qui habituellement auraient pu fuir pendant une courte période et rentrer, accéder à leurs champs, accéder à leurs biens, maintenant ils sont contraints, ils ne peuvent plus rentrer. Ça leur met aussi les familles d'accueil en difficulté. Les Congolais sont généreux, super généreux avec leur accueil. Ils prennent des personnes et ils partagent les deux fois rien qu'ils ont. Le problème, bien sûr, c'est que après cette année de plusieurs mouvements, non seulement pour le conflit, mais aussi suite au volcan, nous voyons des familles d'accueil, des communautés qui sont épuisées par le lot qu'on leur a demandé. Mmh. Et on essaie, nous, les humanitaires nationaux et internationaux, on essaie de contribuer et de leur soutenir, mais je pense que le plan d'action humanitaire est financé à 30%. Donc, on est loin d'être en mesure de répondre à tous les besoins.
Alors, comme vous représentez le HCR, par rapport à la protection des réfugiés pendant cette période très sensible, ici, localement, au Nord Kivu, quel est votre constat? Est-ce que vous pensez que les personnes réfugiées bénéficient d'une protection requise ou il y a des préoccupations? Ici, chez nous, à Goma, il y a plusieurs fois où il y a eu de bouclage dans les quartiers et des centaines de personnes sont interpellées. Parmi ces personnes, il y a toujours des étrangers. Est-ce que ce sont des réfugiés ou des personnes en situation irrégulière ou quelle est la situation des réfugiés dans tout ça?
Comme vous savez, tous les étrangers ne sont pas réfugiés. Un réfugié est une personne qui a dû fuir par crainte de persécution ou occupation ou d'autres problèmes liés aux crises à leur pays et qui, s'ils sont face à rentrer, risquent d'être tués, d'être privés de leur liberté, etc. Mais pour être un réfugié, il faut mériter cette protection. Il faut être une personne qui est civile. Les porteurs d'armes ne peuvent pas être des réfugiés. Et une personne qui n'a pas commis des actes de criminalité sérieux, des crimes de guerre, etc. Et donc ici, on travaille dans une situation, comme vous dites, très complexe. Il y a bien sûr les personnes qui viennent des mêmes pays que des réfugiés, qui portent des armes et qui font des choses qui vont leur exclure de la protection internationale. Et c'est le travail du gouvernement, de la Commission nationale des réfugiés, de déterminer qui est éligible pour le statut de réfugié et qui est éligible pour profiter de la loi congolaise qui offre aux réfugiés non seulement la protection contre le refoulement. Le problème, évidemment, c'est s'il y a une confusion entre les réfugiés, des personnes qui sont là légalement, qui ont un statut reconnu par le gouvernement, et les personnes qui sont là pour d'autres raisons et qui posent problème. Et la confusion entre les deux peuvent mettre les réfugiés à risque.
Merci beaucoup, Madame Jackie.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Okapi, la chef de la sous-délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR Goma. Madame Jackie Kigen était interviewée à Goma par Sifa Maguru et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté à Kinshasa, il est 18h20. Merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Ben Kabamba. Retrouvez cette édition sur www.radiookapi.net.